Je crois, n'est-ce pas, que chacun, enfin, partout, est en train de devenir medtech dans l'univers. Je crois vraiment que le medtech tel que je l'ai présenté est sur le point de devenir le modèle et la fatalité plutôt de tous les hommes d'aujourd'hui. Il est évident que la Terre devient, pour ainsi dire, n'est plus une patrie. Tout le monde, plus ou moins, a les sentiments de provisoire et d'une fin. Il n'y a plus de patrie éternelle, il n'y a plus ce sentiment naïf, n'est-ce pas, d'un enracinement quelconque. Le sentiment du provisoire qui va devenir forcément un sentiment tragique, je crois que c'est ça qui explique pourquoi, à mon sens, dans chaque homme, il y a un métèque futur, n'est-ce pas?
Dans chaque homme, il y a un métèque futur de la bouche de l'auteur de L'inconvénient d'être né, le philosophe Émile Cioran. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'humanité est-elle destinée à migrer? Au lendemain de la signature du pacte de Marrakech sur les migrations dénoncées par Marine Le Pen comme une ignominie immigrationniste, retour sur un texte qui suscite manipulations et incompréhensions, et au-delà sur une réalité vieille comme l'humanité, la migration comme phénomène biologique et social propre aux vivants, humains compris. Avec nos deux invités, tous deux contributeurs du deuxième manifeste du Muséum National d'Histoire Naturelle, consacré cette fois aux migrations et édité chez Relief, l'ethnologue Frédéric Schluss, directrice du département Hommes et Environnement du Muséum, spécialiste des espaces maritimes et littoraux. Bonjour Frédéric Schluss.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, l'anthropologue et démographe Gilles Pison, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle également, chercheur associé à l'INED, spécialiste des évolutions mondiales de la population, de la démographie mondiale. Bonjour à vous, Gilles Pison.
Bonjour.
Sous la loupe médiatique, nous oublions leur faible nombre au regard de l'ensemble des mobilités humaines. Sous la loupe politique, l'exploitation du thème fait parler de crise migratoire. Voilà ce qu'on peut lire en introduction de ce manifeste. Pour les auteurs de ce manifeste, dont vous êtes l'un comme l'autre, il s'agissait de poser quoi? Un regard sans filtre sur cette question, Gilles Pison?
Alors, il s'agissait d'abord de resituer les migrations des humains au sein de l'ensemble des migrations du monde vivant. Parce que le premier constat, c'est que toutes les espèces animales sont mobiles, c'est hein, la définition des animaux, et les hommes comme les autres espèces. Et donc, il y a des règles, il y a des régularités qu'on observe dans toutes les espèces, donc c'est utile de le dire en premier, parce que les hommes ne font pas exception à des... Et puis, deuxièmement, les migrations des humains, elles ont aussi leurs spécificités. Elles ont évolué au cours du temps. Et puis, rappeler aussi que c'est elles qui sont la raison du peuplement par l'espèce humaine de toute la planète. Parce que tous les 7,5 milliards d'humains que nous sommes, nous appartenons tous à la même espèce et nous sommes tous descendants d'une même population d'origine, parce que nous sommes tous des homo sapiens, et les homo sapiens sont apparus il y a 300 000 ans à peu près en Afrique, et c'est de ces premiers homo sapiens que nous descendons tous, mais par le jeu de migrations successives. Donc on y a une espèce qui a beaucoup migré et les migrations se poursuivent aussi de nos jours.
On enlève les filtres, Frédéric Schluss, le filtre médiatique qui nous raconte l'arrivée des bateaux, les sauvetages en mer, ou au contraire, les bateaux qui sombrent, les vies humaines perdues, les vies humaines sauvées, jour après jour, en donnant le sentiment que le phénomène est global et massif. On enlève aussi le filtre politique qui rend cette question très controversée pour tenter de poser aujourd'hui avec vous un regard scientifique sur cette question en croisant les disciplines, les différents auteurs de ce manifeste sont qui sociologues, qui géographes, archéologues, biologistes, préhistoriens, ethnologues comme vous, Frédéric Schluss. Comment vous avez chacun opéré une nouvelle lecture de ce fait à travers vos disciplines? Comment votre discipline à vous, l'ethnologie, éclaire-t-elle cette question?
Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que c'est une voix d'une institution. Le Muséum national d'histoire naturelle a choisi de se positionner dans le débat social, dans le débat politique, pour partager avec nos concitoyens un certain nombre de faits et d'analyses scientifiques. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, plusieurs scientifiques se sont prêtés au jeu et ont partagé chacun son point de vue. Donc, comme Gilles Pison, un démographe qui apporte un certain nombre d'éléments, mais pour revenir sur l'ethnologie, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que tu dis, l'ethnologie plus particulièrement aujourd'hui, c'est cette rencontre entre des populations qui arrivent et des populations qui sont là depuis plus longtemps. Pas depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps souvent, mais depuis plus longtemps. Donc chacun a pu éclairer, les généticiens éclairent les apports génétiques, les archéologues, les apports culturels tout au long du temps. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était de pouvoir partager avec nos concitoyens et de donner des éclairages qui sont biologiques, culturels, démographiques, historiques.
Et les préhistoriens nous racontent les premières migrations aussi, Gilles Pison. L'anthropologie et la démographie portent aussi un regard spécifique sur cette question.
Bien entendu. Alors, anthropologie, c'est un regroupement très, très large. Hein. Dans le laboratoire du muséum dont je fais partie, il y a des généticiens, il y a des linguistes. Donc, ces différentes spécialités qui concourent à retracer l'histoire de Homo sapiens, l'histoire du peuplement de la planète, hein, et puis des démographes aussi, qui étudient les mouvements aujourd'hui, qui se poursuivent, mais vous voyez, c'est dans la continuité d'une longue histoire, hein, qui a déjà 300 000 ans.
Ben, on va faire appel peut-être au savoir des linguistes qui peuvent, que vous fréquentez dans ce laboratoire, pour s'arrêter un instant sur la question des mots. L'écrivain Blaise Cendrars, le bourlingueur, en 1948, racontait déjà les difficultés qu'il avait à se déplacer, à voyager.
Je ne regrette pas les voyages, puisque voyager aujourd'hui est surtout une corvée sans nom. On perd un temps fou à aller chercher des réclamer, obtenir des visas. C'est fort déplaisant comme préface à un voyage. En plus de ça, il y a des difficultés de devises étrangères à obtenir, etc., etc. C'est bien qu'on n'a plus envie de voyager.
Oui,
j'attends que tout cela se tasse et qu'on puisse partir comme autrefois.
Qu'il n'y ait plus de barrière douanière.
En allant tout simplement à la gare, comme cela m'est arrivé une année, vers 1910. Il me restait un billet de 100. J'en avais marre de Paris, je vais garder du Nord. Et j'ai l'employé derrière son guichet, bien mon petit vieux, seulement pour 100 francs. Saint-Pétersbourg, 97 francs, 75 centimes. Il me restait 2 francs 25 de petite monnaie pour les frais de route. C'était parfait. Mais je ne pouvais plus faire ça aujourd'hui. Et voilà pourquoi on a bien envie de partir maintenant.
Voilà, on pourrait parler de bourlinguer, de voyager, de migrer. Tiens, comment ce terme est-il devenu celui qui s'est imposé dans le débat public aujourd'hui? Voyageurs, émigrés, migrants, les mots ont changé et nos représentations avec, selon vous, ont beaucoup évolué. Frédéric Schluss.
Effectivement, la première chose qu'on a faite quand on a commencé à discuter, à réunir l'ensemble de ces scientifiques, c'est de s'arrêter un peu sur la définition. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Mobilité, déplacement, migration, dispersion. C'est quelque chose qui est déjà intéressant de voir les termes qui sont utilisés. Et aujourd'hui, effectivement, il nous est apparu qu'il y avait des termes qui étaient associés à cette notion de migration, qui étaient des termes généralement assez négatif ou très misérabiliste, et donc il fallait essayer de relever pour essayer de voir ce qu'il pouvait dire. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui on parle de crise comme s'il y avait une rupture. Or c'est ce qu'on essaye de démontrer, hein, c'est que cette migration, elle existe depuis 300 000 ans pour l'Homo sapiens et depuis 1,8 million pour le genre hominine, hein, qui sont les premiers de ce genre Homo. Donc il y a cette crise qui veut dire rupture, et après il y a ces connotations de ce qui ont trait à la sécurité, où il y aurait du danger à cette migration. Or, c'est vraiment, ça n'analyse pas la migration, ça dit plutôt de ce que l'on pense aujourd'hui de cette migration, des préjugés que l'on a envers ces migrations. Et on souhaitait aussi revenir sur ces connotations généralement très négatives sur la migration.
Migration, c'est aussi un terme qu'on emploie pour les oiseaux. Et l'objectif de ce manifeste était aussi de rappeler que les déplacements sont sont l'affaire de tous les êtres vivants et pas simplement des humains, qu'il y a chez tous une propension à se propager dans l'espace et dans le temps. Les hirondelles, par exemple, elles s'envolent à l'automne pour un long voyage vers le sud. L'huître aussi est un coquillage nomade, tout comme les grains de pollen. Mais tous ces vivants ont une raison de se déplacer. Les hirondelles, par exemple, elles migrent à l'automne vers l'Afrique parce que les hivers européens sont froids et que la nourriture est plus abondante là-bas, si je ne me trompe. Et les hommes, pourquoi est-ce qu'ils migrent ? Quelles raisons vitales les poussent à migrer ?
Alors, d'abord, une remarque. Les hirondelles migrent, mais c'est pour revenir. Donc, c'est des mouvements saisonniers, hein, hiver, été. Pour les humains, quand on parle de migrants, de migration, on s'entend en général sur une définition, c'est un changement de résidence, hein, mais qui est normalement définitif. Et les Nations Unies recommandent de ne compter comme migrant qu'une personne qui donc vient s'installer dans un autre pays que celui où elle habitait, au moins pour un an, enfin de façon définitive. Donc ça se distingue des voyages. Si vous voulez, en France, il y a 100 millions de personnes qui rentrent chaque année en France. Il y en a 100 millions qui en ressortent. Mais la plupart, c'est des touristes, c'est aussi des gens qui viennent pour leur travail. Et donc, des migrants, des personnes qui viennent habiter en France ou des personnes qui habitent en France qui quittent la France, c'est tout petit. C'est comme trouver, et quand c'est un problème pour les mesurer, une aiguille dans une botte de foin. Voyez. Alors, voilà le contexte. Mais on s'entend, il faut qu'on s'entende sur une définition commune. Et quand on s'entend sur cette définition, le décompte montre que sur les 7 milliards et demi d'humains que l'on est sur la planète, il n'y en a que 260 millions qui sont des immigrés dans le pays où ils habitent. C'est-à-dire qu'ils sont nés dans un autre pays et depuis leur naissance, ils ont franchi au moins une frontière, parfois plusieurs. Et donc, ce n'est que 3% des humains qui sont des immigrés là où ils habitent. Donc, l'immense majorité des humains, 97%, ils vivent toujours dans le pays où ils sont nés.
Mais hein, vous rappelez dans ce manifeste qu'il y a quatre types de migration principalement reconnues ou distinguées, identifiées par la plupart des pays. La migration économique, les regroupements familiaux, les migrations liées à l'éducation, c'est-à-dire des étudiants qui partent étudier à l'étranger, et les migrations humanitaires. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que comme pour les hirondelles, comme pour l'huître ou le pollen, vous diriez que ces migrations sont des choix ou qu'elles sont inscrites presque dans les gènes du vivant des humains?
Alors, Frédéric Schluss. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est il y a effectivement souvent la contrainte de la ressource, c'est-à-dire migrer chez les êtres vivants, les non humains, il s'agit d'aller vers une ressource. Pour les humains, il y a évidemment cette contrainte de la ressource qui existe, hein, c'est trouver des ressources pour pouvoir survivre. Mais il y a aussi d'autres contraintes qui sont des contraintes politiques, échapper à des guerres, échapper à des espaces dictatoriaux. Et ce qui était assez intéressant, c'était aussi de montrer qu'il y avait aussi cette forme de choix, c'est-à-dire s'accomplir, aller dans un autre pays pour accomplir un projet personnel. Tout être un individu, ce qu'on respecte aujourd'hui en Occident, hein, c'est de partir pour vivre la vie qu'on a choisie. Ce qui est, on s'aperçoit qu'au niveau des migrations, dans les temps très longs, hein, les temps de la préhistoire, c'est qu'il y a aussi cette curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que pourquoi coloniser l'océan Pacifique, par exemple, et aller d'île en île que l'on ne voit jamais, s'il n'y a pas aussi ce désir de migrer, ce désir de circuler et d'aller voir ce qui se passe ailleurs.
Le couple déplacement-sédentarité, vous le rappelez dans ce manifeste, est indispensable aux vivants, mais on est tous d'accord qu'il faut trouver un équilibre entre ces deux notions, sinon la balance bascule dans un sens ou dans l'autre. Alors, où placer le curseur sur cette question, ce couple déplacement-sédentarité, où est le bon équilibre pour vous, Gilles Pison?
Alors, quand on mène des enquêtes auprès des humains, hein, un peu dans tous les pays, on leur pose des questions et qu'on pose des questions. Est-ce que vous souhaitez changer de pays, émigrer? La plupart des 7 milliards et demi disent non. Il n'y a qu'une minorité, c'est 13% d'après un sondage de l'Institut Gallup il y a quelques années, qui vous répondent « Ah, j'aimerais bien changer de pays, migrer ». Sachant que c'est une déclaration, parmi ces 13%, il n'y en a que un tiers qui ont vraiment un projet de changer dans les 12 mois. Et parmi encore ces 30%, il n'y en a que 2% qui ont commencé à préparer un déplacement. Donc, l'immense majorité des humains, si vous voulez, souhaitent vivre là où elle vit, mais c'est là où on a sa famille, on a ses habitudes, on a ses souvenirs d'enfance. Donc, s'expatrier, partir en migration, mais c'est très peu de gens qui le souhaitent. Pour une partie, ils sont forcés, mais pour une autre partie, c'est des gens qui ne le sont pas. Mais c'est pas la plupart des gens, faut se dire. Et que, donc, l'immense majorité des humains souhaitent vivre et effectivement ne migrent pas. Mais avec ça, c'est intéressant de savoir qui migre, qui ne migre pas. Et quand là aussi, on fait des enquêtes, on s'aperçoit que dans les grands flux migratoires d'aujourd'hui, il y a à peu près les mêmes facteurs. C'est-à-dire que la probabilité qu'une personne migre d'un pays à un autre dépend de son niveau d'instruction et des ressources dont elle dispose ou dont dispose sa famille. Et les enquêtes montrent que les personnes qui sont dépourvues d'instruction et qui sont dépourvues de ressources, soit elles-mêmes, soit leur famille, migrent peu en comparaison de celles qui ont des ressources. Alors, il y a aussi des facteurs qui influent sur les flux de migration entre deux pays. Le flux est d'autant plus important que l'écart de revenus moyen entre les pays est élevé. Le fait de partager une même langue, un passé colonial, une diaspora déjà installée et son importance jouent également un rôle. Et donc, c'est un peu comme ça que les chercheurs arrivent à trouver des régularités, à décrire les facteurs qui influent sur les migrations d'aujourd'hui.
Une question au démographe que vous êtes, Gilles Pison. Si les migrations s'arrêtaient net aujourd'hui, que se passerait-il à l'avenir pour l'humanité ?
Alors c'est une utopie complète parce que...
C'est un scénario fiction, en
voilà,
tout cas.
Il faut le dire en premier. Ben, y a des pays qui verraient leur population diminuer. Il y a même des ensembles de pays. L'Union européenne à 28 a depuis très peu plus de décès que de naissances. Donc si on arrêtait les flux, que ce soit d'entrée ou de sortie, hein, on empêche aussi des Européens d'aller ailleurs. Eh bien, la population se mettrait à diminuer, alors qu'elle augmente. Hein, et cette diminution se poursuivrait. Donc les 500 millions d'Européens de l'Union à 28 que nous sommes seraient plus que 400 millions à la fin du siècle. Hein. Des pays comme l'Allemagne, qui ont un excédent de décès sur les naissances, il y a 200 000 de décès en plus que de naissances. Donc si les frontières de l'Allemagne étaient fermées et bouclées, plus personne ne rentrait ni ne sortait, la population de l'Allemagne diminuerait à un rythme relativement rapide alors qu'elle augmente. Donc, alors il y a d'autres pays pour qui ça n'aurait pas beaucoup d'influence, les pays qui voient leur population augmenter beaucoup. C'est-à-dire que si on arrête les flux, alors il y a des flux de départ de ces pays, mais qui ne modifient pas la situation démographique, si vous voulez. Les flux, que ce soit d'entrée et de sortie, sont pas si importants que ça pour dépeupler un pays ou repeupler un autre, si vous voulez, par rapport au mouvement, au jeu des naissances et des décès. C'est ça le gros facteur de croissance de la population. Il y a aussi, si vous arrêtez les flux, eh bien, certains pays vont manquer de main-d'œuvre. C'est le cas de l'Allemagne, encore une fois, qui a de la peine à trouver des personnes pour occuper les emplois. Ils sont assez contents, finalement, d'avoir alors des immigrants, notamment qui sont formés, qui ont un métier, pour occuper toutes ces places. L'économie allemande en souffrirait fortement. L'économie des États-Unis aussi, puisque c'est un grand pays d'immigration.
Voilà comment l'histoire naturelle peut aussi éclairer certaines décisions politiques et notamment le choix qui a été fait il y a un peu plus d'un an par Angela Merkel d'accueillir les migrants, d'ouvrir les frontières quand la question s'était posée. Cette question des migrations amène aussi à repenser, nous dites-vous, avec les autres auteurs de ce manifeste, la question de l'enracinement. Alors en quoi, je vous propose d'ouvrir avec les mots du philosophe Robert Chenavier sur la pensée de Simone Weil, qui était l'auteur de l'enracinement.
L'enracinement, pour elle, c'est un rétablissement de relations multiples. De relations multiples, naturelles, sociales, surnaturelles, avec le monde et à travers des milieux différents, culture, travail, tradition, spiritualité. Donc si la notion de patrie a une certaine importance pour elle, si elle développe tant de choses à propos de la notion de patrie, c'est vrai que c'est parce que la patrie est ce milieu vital qui permet à tous ces milieux vitaux de s'exprimer et qui leur permet d'avoir des relations entre eux. L'enracinement n'est pas quelque chose d'univoque, quelque chose d'uniforme, etc. C'est la multiplication des relations. Et il est vrai que quand quelque chose comme la patrie s'effondre, eh bien c'est tous ces tissus, tous ces milieux qui s'effondrent.
Votre réaction, Frédéric Schluss, sur ce qui se perd ou ce qui peut s'effondrer aussi, l'idée aussi que dans la migration et l'enracinement, ça permet une multiplication des relations.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, dans ce manifeste, on a travaillé le concept hospitalité-hostilité, qui a la même origine sémantique, et qu'effectivement, il faut concevoir cet enracinement, c'est-à-dire ce besoin aussi d'un chez-soi, le besoin de partager ensemble avec un certain nombre de concitoyens, une culture commune, un certain nombre de règles communes. Mais quand on a dit ça, ça veut pas dire que d'accueillir les gens, ça empêche toute forme d'enracinement. En fait, à chaque fois, on voit bien que l'accueil dans des proportions qui sont ce dont on parlait juste à l'instant, dans cet équilibre, l'accueil, il est toujours aussi par petites touches successives, quelque chose qui permet des innovations ou des nouvelles formes au niveau de la cuisine, au niveau de technique, au niveau de l'art, et qui enrichit à chaque fois aussi cette communauté qui s'est enracinée quelque part. Et les chiffres nous montrent également que l'enracinement, les personnes qui viennent, ces migrants, cherchent aussi à s'enraciner quelque part. Et cherchent à s'enraciner notamment par les liens de parenté. Et deux tiers des migrants, des enfants de migrants, se marient avec des personnes qui sont non migrantes ou non issues de migrants. Et donc on voit que cet enracinement aussi, c'est faire descendance commune quelque part par ces mariages que l'on peut qualifier de mariages mixtes ou autres, et de ces mariages entre populations différentes.
Là, vous en donnez quand même le volet positif. Il y a des craintes qui s'expriment beaucoup à ce sujet-ci. Notamment, ça soulève la question de nos identités. De quoi sont faites nos identités nationales, à la fois individuelles et collectives? Comment expliquer que, de tout temps, et là, on en revient au premier mot peut-être de Suran sur le métèque futur, mais que de tout temps, nos identités sont brassées, sont des mélanges? Gilles Pison.
Oui. Et on n'en a pas suffisamment conscience. On en parlait en début d'émission, c'est-à-dire qu'on est tous originaires d'une même population qui était en Afrique, là, les premiers Homo sapiens, et c'est les migrations successives. Donc on est tous des immigrés. Cro-Magnon lui-même, on vient de fêter, si vous voulez, les 150 ans de sa découverte. Les restes de Cro-Magnon sont détenus par le Muséum National d'Histoire Naturelle, par le MUSLOP, on a beaucoup étudié. Mais lui-même, eux-mêmes, c'est une population, ils étaient des immigrés ou des descendants d'immigrés, puisqu'ils étaient issus de migrants qui étaient venus d'Afrique, puis après la sortie de l'Afrique, donc de Palestine, du Proche-Orient. Donc on est tous un peu issus de ces mouvements. En France, on a peut-être un peu de difficulté à admettre que la population de la France, et on est tous très fiers quand on habite en France, elle s'est construite sur l'immigration. On est un vieux pays d'immigration dont la population est issue de vagues de migrants depuis un siècle, un peu à l'égal des États-Unis ou de l'Australie. Mais dans ces pays, on peut pas... Tout le monde sait bien que le pays existe grâce à tous les migrants qui sont venus dans ce pays. En France, on a un petit peu de difficulté à admettre cette idée. Mais c'est la réalité. Et ça fait partie de notre identité. On est un pays qui s'est construit sur l'immigration, ça n'enlève rien à notre identité et à l'identité de la France.
Et c'est rarement perçu ou présenté comme une chance, plutôt comme un problème. Réécoutez les mots d'Emmanuel Macron, c'était en début de semaine lors de son adresse à la Nation.
Je veux aussi que nous mettions d'accord la Nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde. Que nous abordions la question de l'immigration. Il nous faut l'affronter. Ces changements de fond, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national. Dans nos institutions, chacun y aura sa part.
Pourquoi c'est une question qu'il faut affronter, Frédéric Schluss, Gilles Pison?
Alors c'est une question qu'il faut certainement affronter aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on est dans une situation, on parle de crise de la migration, de l'immigration, donc il faut en parler. Nous ce qu'on a souhaité faire avec ce manifeste, c'est vraiment un peu poser sur la table ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que la migration a toujours existé, qu'elle touche tous les êtres. Aujourd'hui c'est pouvoir se dire comment on accueille les personnes, alors combien c'est vraiment pas aux scientifiques de le dire, puisque ça, c'est vraiment des choix de société, qui sont des choix de société importants, mais qui doivent être, pour le moins, peut-être dépassionnés et s'appuyer sur des faits, et pas uniquement sur des opinions ou sur des fantasmes à propos de ces migrations. Et on pense, en écrivant cet ouvrage, qu'il faut s'en saisir réellement, s'en saisir avec tout ce que cela a comme réalité biologique, culturelle. On en a parlé. Pour revenir sur votre question tout à l'heure, je discutais avec un collègue justement écologue qui disait que les oiseaux, il y a des études qui ont été faites en éthologie où les oiseaux, quand il y a de nouveaux oiseaux qui arrivent, il y a quelques minutes ou quelques heures un petit peu où ils se sentent menacés ou regardent leur congénère avec une drôle, un petit peu en se disant mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent nous manger nos réserves, etc. Et qu'après, les choses se passent bien. Mais il y a cette inquiétude, en fait, des nouveaux arrivants. On a ça aussi, hein, cette inquiétude des nouveaux arrivants. Il faut s'interroger aujourd'hui comment les accueillir mieux. Dans le manifeste, si je peux être un tout petit peu plus longue, c'est effectivement sur ces notions d'assimilation, multiculturalisme, et donc assimiler, qu'est-ce que ça veut dire, ou multiculturalisme si on choisit cette voie-là, qu'est-ce que ça veut dire, comment on accueille les gens, il y a vraiment des questions très politiques, là du coup, à se poser.
L'humanité est-elle destinée à migrer? On en parle jusqu'à 13h30 avec nos deux invités, l'ethnologue Frédéric Schluss et l'anthropologue démographe Gilles Pison, tous deux auteurs, avec d'autres, d'un manifeste, le deuxième manifeste du Muséum sur les migrations.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
C'est parce que nous mesurons plus que jamais, et sur la thématique migratoire plus qu'ailleurs, que notre interdépendance est aussi réelle que notre responsabilité est partagée. Nous sommes incontournables les uns pour les autres. Nous avons fait la preuve de lucidité en optant pour un cadre multilatéral global pour incarner cette conscience à travers l'adoption imminente du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.
Le président de la conférence du pacte de Marrakech, signé le 10 décembre dernier, accord entre plusieurs pays pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Voici dans le texte ce qu'il est dit. Vous évoquiez à l'instant, Frédéric Schluss, la nécessité d'organiser les migrations, mais comme un choix de société. Donc je ne vais pas vous demander une réponse de scientifique sur le combien, etc. Mais dans ces mots, migration sûre, ordonnée et régulière, Gilles Pison, est-ce que l'un de ces trois mots qui sont presque des mots d'ordre, relèvent pour vous du contresens? Ou est-ce qu'on peut rendre les migrations sûres, ordonnées et régulières?
Alors, si j'ai bien compris, c'est des conseils aux États et à toute l'humanité, c'est pas des obligations, hein, ce pacte.
Non, c'est un pacte qui est non contraignant.
Il est non contraignant. Non,
ça veut dire que les États, s'ils ne respectent pas les règles,
ils visent un idéal, c'est que les migrations se passent mieux qu'elles ne se passent aujourd'hui. À la fois pour les personnes qui migrent et pour les populations des pays d'arrivée et de départ. Hein. Et donc, on ne peut que, si vous voulez, applaudir. Il y a donc une partie des migrants qui se déplacent avec, dans des conditions très difficiles, hein, irréguliers. Alors c'est une minorité, mais que leur migration puisse s'effectuer de façon meilleure et qu'ils aient un statut, qu'ils soient des migrants réguliers, ce qui est le cas de beaucoup de migrants aujourd'hui. Hein, donc faut, voilà, que les États soient plus clairs sur la migration. C'est un peu ce que disait Emmanuel Macron, il utilisait ce mot affronté, mais je pense qu'on manque de discussion, de débat et d'échange sur un, ce que l'on souhaite, ce que la société souhaite. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Les Européens ne sont pas au clair sur ce qu'ils souhaitent pour demain. Sur à la fois, je ne sais pas si c'est des effectifs, mais c'est des types de migration qu'ils souhaitent favoriser. C'est des règles. Et donc, il y a un gros travail à faire, alors, à la fois en France, mais aussi à l'échelle européenne, pour s'entendre.
Parce et que, c'est vrai qu'ils ne sont forcément... pas tous d'accord. Je vous propose d'écouter encore juste les mots de l'eurodéputé du Rassemblement national, Nicolas Bay, c'était le 1er décembre dernier.
En mars 2000, l'ONU préconisait déjà l'entrée de 159 millions d'immigrés en Europe d'ici 2025. Aujourd'hui, l'ONU veut nous imposer son pacte mondial pour les migrations. Bien qu'on nous répète que ce texte n'ait aucun caractère contraignant, il vise en réalité à consacrer un prétendu droit à la migration. Présenté comme un nouveau droit de l'homme, il induirait de nouveaux devoirs pour les pays signataires, et ce, au nom d'une charité dévoyée qui fait passer les autres avant les nôtres. J'y vois là un odieux chantage moral qui passe par la culpabilisation des nations occidentales. Car ce sont elles, évidemment, qui sont visées, et non, par exemple, la richissime Arabie Saoudite qui n'accepte aucun migrant, mais à qui l'ONU a confié son Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis de Donald Trump sont la première nation à s'être retirée de ce scandaleux pacte de l'ONU. Beaucoup d'autres le refusent également. Australie, Hongrie, Autriche, Pologne, République tchèque, Croatie et maintenant Bulgarie. En Europe, à ce rythme-là, il n'y aura plus guère que Macron et Merkel pour vouloir encore signer ce texte.
Un dévoiement, Gilles Pison ?
Moi, je pense qu'il y a 70 ans, quand a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors au Trocadéro, alors c'est encore un lieu muséum, hein, il y avait des réactions de ce type, puisque ça énonçait un certain nombre de droits, de règles valables pour tous les humains. Ça n'avait aucun caractère contraignant. On est maintenant 70 ans après, je pense qu'il y a plus grand monde qui, si vous voulez, attaque cette déclaration, qui a eu son utilité, donc c'est un petit peu la même chose ici. Alors, deuxième information, c'est que ce dont on manque aujourd'hui beaucoup, c'est de connaissances, d'études sur les migrations, sur tous les sujets qu'on a vus. Et donc, si ça pouvait être l'occasion de faire un effort, de soutenir des recherches scientifiques et les scientifiques dont nous faisons partie, qui étudient ces phénomènes, pour qu'on ait plus de connaissances et pour que la société, le citoyen, puisse décider, puisque c'est encore lui qui décide, qu'est-ce qu'il veut pour demain.
Rappelons donc juste que ces principes qui sont posés dans le pacte de Marrakech sont non contraignants. Ce sont des normes de bonne conduite qui sont censées guider l'action des États. C'est comme un peu l'accord de Paris qui est encore rediscuté aujourd'hui à Katowice en Pologne dans le cadre de la COP24. Un mot de conclusion avec vous, Frédéric Schluss.
Oui, effectivement, comme vient de le dire Gilles Pison, je pense que les données fiables sont déjà un premier point. S'appuyer sur des faits pour construire une politique et puis pour tout citoyen, construire une réflexion critique et autonome. C'était vraiment le but de notre du manifeste. Et peut-être pour poser la question de cet inégal droit à la circulation, quand on regarde les faits, justement, on s'aperçoit que s'il s'agit de migrer quand on est issu de pays occidentaux, c'est relativement simple. L'inverse n'est pas vrai. Donc, effectivement, organiser ou donner un droit égal à circuler. Et ça me paraît quand même quelque chose d'intéressant.
Voilà, il y a aussi des conflits de droit et de législation sur cette question de la liberté de circulation. Évoquons juste à ce propos, en conclusion, la décision de la Cour de cassation qui vient d'annuler la condamnation de Cédric Herrou pour aide aux migrants. Il leur avait porté secours après qu'ils ont traversé la frontière franco-italienne. C'était à l'été 2007. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Lyon, maintenant qui devra se prononcer sur le fond. Mais c'est bien la question du délit de solidarité qui était posée ici depuis que le Conseil constitutionnel a consacré aussi un principe de fraternité. La fraternité, c'est aussi une longue histoire qui rejoint celle que vous interrogez, celle de l'hospitalité. Ce n'est pas qu'un point de vue philosophique, rappelez-vous, c'est aussi une caractéristique singulière de l'humain parmi les vivants. Un grand merci à vous deux d'être passés autour de cette grande table, Frédéric Schlous et Gilles Pison. Merci à toute l'équipe, Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la grande table culture, Maya Neskovic avec Laura Dutache-Pérez pour la grande table des idées et l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. C'était Milena Elig à la réalisation aujourd'hui. Très bel après-midi à tous sur France Culture.